Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Merci d'être venu assister à cette conférence. Donc nous sommes ravis de vous recevoir, Fabrice Midal. Cette soirée va se découper en deux parties. Il va y avoir une première conférence autour du dernier livre de Fabrice Midal, Traité de morale pour triompher des emmerdes. Et une deuxième partie, une deuxième conférence qui va s'enchaîner à 19h30, 19h35, dont le sujet sera méditation et personnes malentendantes. Voilà, en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Pour commencer, alors on va avoir une conférence qui va durer à peu près 45-50 minutes. On va ensuite vous laisser la parole et on va laisser à peu près 20 minutes entre, on va dire, 19h10 et 19h30 pour que vous puissiez, si le cœur vous en dit, aller voir Monsieur Fabrice Midal pour lui demander une dédicace. Alors, Fabrice Midal, bonsoir. Donc, ce soir, nous vous recevons pour parler de votre dernier livre, paru aux éditions Flammarion, qui s'appelle donc « Traité de morale pour triompher des emmerdes ». C'est un livre qui peut être soit poursuit, soit clos, vous allez nous le dire, une sorte de triptyque. Vous aviez déjà, toujours chez Flammarion, fait paraître un premier livre qui s'appelle « Foutez-vous la paix », qui avait connu un joli succès. Un deuxième livre ensuite, « Sauvez votre peau, devenez narcissique ». Et on peut se dire qu'effectivement, ce livre vient compléter une sorte de trilogie. Comme ça, dans le fil serait un peu l'art du retournement, mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Je vais simplement faire un petit rappel de vos nombreuses publications. Je vais rappeler deux ouvrages que vous aviez publiés il y a déjà quelques années, mais que nous avons toujours dans les fonds de la librairie Mola et qui sont devenus deux livres de référence. C'est deux livres qui sont maintenant en poche aux éditions Pocket. Vous aviez fait publier un livre « Comprendre l'art moderne », qui est devenu un classique, et un livre sur la poésie. Pourquoi la poésie ? L'héritage d'Orphée. Donc ces deux livres sont chez Pocket. Par la suite, vous avez fait paraître de nombreux ouvrages sur le bouddhisme, relativement érudits, qui sont pour la plupart, je crois, aux éditions du Seuil, dans la collection Point Sagesse. Et l'on vous connaît ensuite et surtout en tant qu'enseignant de méditation laïque. Ça fait, je crois, une vingtaine d'années que vous enseignez la méditation laïque. Vous avez fondé une école et vous avez fait paraître différents ouvrages à ce sujet qui sont devenus aussi des classiques, dont un que personnellement, en tant que libraire, je conseille souvent, c'est « Pratique de la méditation » en livre de poche, qui est une initiation très simple, extrêmement accessible, accompagnée d'un CD. Donc on peut en plus s'exercer avec vos méditations guidées. Et par ailleurs, il faut souligner aussi que vous avez un travail d'éditeur. Vous dirigez aux éditions Belfond une collection qui s'appelle « Esprit d'ouverture », qui est une collection à mi-chemin, on va dire, entre spiritualité et développement personnel, même si je sais que vous n'aimez pas beaucoup l'expression de développement personnel. On y retrouve des auteurs comme Thich Nhat Hanh, par exemple, ou Tal Ben Shalhar, Jack Canfield, ou Sharon Salzberg, d'ailleurs, que vous citez dans la bibliographie de votre dernier livre. Et vous dirigez également la collection Pocket Evolution. Donc, revenons...
Ça fait des choses.
Oui, ça m'a déjà pris au moins 5 minutes pour dire tout ça. J'ai peut-être oublié des choses en plus. Hein. Bon, nous allons donc parler de votre dernier livre. Effectivement, je précisais qu'il y en avait deux parus précédemment. Donc, moi, j'ai tendance, vous allez me dire si c'est justifié ou pas, j'ai tendance à les associer. Donc, Foutez-vous la paix, c'était le premier. Sauvez votre peau, devenez narcissique, le deuxième. Et celui-ci, donc, Traité de morale pour triompher des emmerdes. Quoique celui-ci, le troisième, est un petit peu différent, me semble-t-il. Dans celui-ci, j'ai l'impression qu'on retrouve aussi le Fabrice Midal philosophe, car ça, je ne l'ai pas dit, mais vous avez une formation en philosophie, vous avez été enseignant de philosophie. Alors, eh bien, je vous pose très simplement cette première question. Est-ce que, effectivement, vous avez conçu ces trois ouvrages un peu comme un seul et même projet? Je parlais tout à l'heure d'art du retournement, parce que je trouve que ça vous va assez bien. Et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais vous êtes assez méfiant de leçons ou d'enseignements que nous avons tendance à intégrer un petit peu trop vite. On va revenir sur les notions de pleine conscience ou de lâcher prise, voilà, qui n'attisent pas beaucoup votre sympathie. Et c'est vrai que dans le Foutez-vous la paix, vous allez déjà contre certaines choses qui sont un peu surprenantes. Devenez narcissique, ça va un peu aussi d'une certaine manière à contre-courant de ce qu'on peut nous dire. Et dans celui-ci aussi, on retrouve un petit peu cet esprit de retournement. Donc voilà, ces trois livres font-ils partie d'un seul et même projet ou voilà.
C'est bien, c'est beau d'avoir d'abord un libraire comme vous. C'est quand même franchement, ça se fait pas, mais on peut vraiment l'applaudir. C'est franchement, c'est quand même, c'est émouvant de voir le rapport réel que vous avez à ce long travail que j'essaye de mener. Alors je sais pas si c'est sûr qu'il y a une sorte d'unité de ton dans ces trois derniers livres. Mais je dirais l'unité de ton, c'est à partir de Foutez-vous la paix, j'ai un peu changé ma manière d'écrire. J'ai peut-être fait plus attention à comment une certaine manière d'écrire peut transformer les gens. Parce qu'on comprend très bien, moi qui suis philosophe, je pensais que la manière d'aider les gens, c'était d'expliquer, d'argumenter. Et à partir de Foutez-vous la paix, je me suis rendu compte que il y a quand même une certaine manière d'écrire qui peut transformer les gens. Il y a une certaine écriture. Et je crois que si ces livres ont rencontré un aussi large public, c'est que les gens, au-delà même de ce que je dis, sentent en le lisant qu'ils ne voient plus les choses de la même manière. Et c'est peut-être encore plus vrai pour celui-là. Il y a plein de gens qui, en lisant le livre, me disent « Ah oui, je ne vois plus mes problèmes de la même manière. Je ne sais pas, même pas très bien comment ça s'est fait. » Donc je fais beaucoup plus attention à un certain équilibre entre les histoires, la narration, etc. Donc je dirais ça, c'est peut-être l'unité. Le renversement, je pense qu'il vient de plus loin, parce que « Et si l'amour, on ne savait rien », c'était déjà un vrai renversement par rapport à tout ce qu'on raconte sur l'amour. « Risquer la liberté », c'était le bascule dans ma vie, c'était « Risquer la liberté ». Parce que avec « Risquer la liberté », c'était ça le renversement. C'était j'étais engagé dans la voie bouddhiste, et avec « Risquer la liberté », je me suis rendu compte que même aussi respectable soit cette tradition, il y avait le risque de s'y enfermer et de perdre la liberté et devenir une sorte de représentant de quelque chose, plutôt que prendre le risque de parler en inventant la parole, en questionnant, et qu'au fond, le questionnement deviendrait moins intense, mais on serait plus que le porte-parole de quelque chose. Donc ça, c'était le premier renversement, qui était, comme je raconte dans « Risquer la liberté », un tournant dans ma vie, une déchirure que je raconte un peu. Et évidemment, aujourd'hui, puisque j'ai dû écrire ce livre il y a peut-être maintenant 15 ou 20 ans, évidemment, ça prend une toute autre aura, puisque ce que je dénonçais dans le livre est apparu au grand jour aujourd'hui avec tous les scandales, tous les scandales des maîtres tibétains dont on se rend compte qu'effectivement, ils ont manipulé pour un grand nombre d'entre eux, dont par exemple Sogyal Rinpoché, qu'ils étaient des manipulateurs, qu'il y a des manipulations financières, sexuelles, effrayantes. Donc beaucoup de choses que je pressentais se sont révélées aujourd'hui. Il y avait quelque chose que je pressentais qui n'allait pas, que cette posture d'une forme de porte-parole ou de dévot risquait de rendre les gens aveugles quant à l'essentiel, et qu'il y a toujours un danger là. Donc ça, c'était peut-être Donc à partir de ce moment-là, où j'ai fait le pari de reprendre l'interrogation philosophique au cœur même de l'engagement spirituel, et à partir de là, il y avait forcément la question du renversement. Mais je prends encore un peu de temps pour répondre.
Bien sûr.
Mais c'est clair qu'avec Foutez-vous la paix, le renversement est devenu. Il y a eu un deuxième choc, un deuxième saut. C'est qu'à ce premier renversement, donc qui est déjà au cœur donc de Risquer la liberté, ici de l'amour, on ne savait rien. À partir mon travail philosophique m'a permis de mieux comprendre l'aveuglement propre à notre temps. Donc il y a j'ai réussi à être un peu plus au clair sur l'articulation de mon propos, de la méditation, de l'engagement philosophique, de l'articulation avec la question spirituelle, avec l'engagement politique, au sens où essayer de voir par où notre monde est attaqué aujourd'hui. Et notre monde est attaqué par le fait que les êtres humains tendent à être réduits à être des rouages d'une machine déshumanisante, dont le signe le plus frappant Et pour moi, le burn-out comme symptôme, hormis le fait qu'il y a plein de gens qui sont marqués par le burn-out, mais le burn-out est un symptôme d'une nouvelle manière dont les gens sont conduits, forcés à s'auto-exploiter eux-mêmes sans s'en rendre compte, et qu'on essaye de pousser les gens à s'auto-exploiter eux-mêmes plutôt que de les exploiter de l'extérieur, ce qui fait que, par exemple, une enquête récente montre que les Français dorment moins de 7 heures par nuit, ce qui n'est pas le parce que nous sommes devenus des mutants et que nous avons plus besoin de dormir, mais que nous nous poussons jusqu'au point où nous ne nous respectons plus. Donc là, c'était ça. À partir de là, j'ai donc essayé de mieux lire ce qui conduit à la souffrance et à notre aveuglement en étant critique sur l'idée que ce serait uniquement dû à des problèmes psychologiques personnels. Et donc, Foutez-vous la paix, c'est né de cette perspective-là. Si on sait ça, l'unité des trois livres, Foutez-vous la paix, c'est... On nous dit qu'il faut toujours faire mieux. Même la méditation, c'est pour mieux gérer son stress, être plus efficace, être plus performant, être plus calme. Et on est juste en train de dévoyer le sens de la méditation. On est juste en train d'en faire un outil de plus qui détruit les gens. Il faut qu'on se foute la paix, il faut qu'on revienne à notre humanité, il faut sauvegarder notre humanité. Puis le deuxième livre... devenait narcissique, c'est que je me suis rendu compte que toute la journée, on raconte que tout le monde est trop narcissique, mais qu'en réalité, les gens n'osent pas être avec eux-mêmes, n'osent pas s'écouter, n'osent pas se rencontrer, et au contraire, ils se harcèlent, ils se maltraitent, ils ne savent pas se respecter. Et si les gens étaient narcissiques, on aurait l'inverse du burn-out, on aurait des gens qui sont dans un état de nirvana toute la journée, et là, il faudrait dire, attention, vous êtes trop dans le nirvana, occupez-vous du monde. Mais les gens ne se laissent pas dormir, se poussent à bout, et donc ils sont le contraire de Narcisse. Et en relisant le mythe de Narcisse, j'ai été étonné que le mythe de Narcisse n'a jamais voulu dire le pervers égocentrique comme on le fait aujourd'hui, mais que Narcisse est, comme la fleur l'indique, le symbole, le mythe le plus profond en Occident du renouveau, de la renaissance, de la capacité de métamorphose pour être soi. Et le troisième livre... C'est vraiment il est venu du fait que beaucoup de gens, quand je faisais, donc je n'avais pas prévu, donc c'était pas vraiment une trilogie prévue, mais beaucoup de gens me disaient, je comprends ce que vous dites sur Foutez-vous la paix, mais comment je fais demain avec mon collègue de travail qui me rend la vie impossible? Comment je fais avec mon conjoint qui m'entend plus? Comment je fais avec ma mère avec qui j'ai des problèmes? Mon fils qui veut plus aller à l'école parce qu'il m'apprend qu'il est harcelé? Et je trouvais important de pas escamoter cette difficulté et d'essayer d'affronter cette question-là. Et donc, c'est ça le thème du livre. C'est le thème du livre, c'est comment on se relie aux emmerdes qu'on a dans la vie.
Oui, en fait, ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est plusieurs situations qui partent à chaque fois d'un récit, voilà, qui peut mettre en scène aussi bien votre voisin, votre filleule, votre grand-mère, le chevalier Lancelot, et toutes ces personnes sont confrontées à des emmerdes qui sont en fait des empêchements, des obstacles qui posent problème. Donc ça peut être le four de votre grand-mère qui tombe en panne alors qu'elle vous a promis de vous cuisiner un gâteau, votre filleule terrorisée par des fantômes qui se cachent dans l'armoire, ou Lancelot empêché par deux lions de rejoindre sa guenièvre. Donc en fait, ça part toujours d'une narration. Alors ça, moi, je trouve que ça rend la lecture extrêmement agréable, puisqu'on est à chaque chapitre immédiatement plongé dans une histoire. Petite histoire un peu de voisin ou grande histoire à travers des figures littéraires ou philosophiques même. Et ensuite, vous déroulez autour d'une thématique, une possibilité, un moyen de triompher en fait de chacune de ces emmerdes. Mais je vais d'abord lire un petit passage, parce qu'en fait, vous dites que les emmerdes, en fait, c'est pas négatif en soi. Les emmerdes, je ne le répéterai jamais assez, ne sont pas uniquement des calamités. Elles sont des crampons qui nous aident à avancer sur ce chemin vers soi, qui n'est pas enfermement sur soi. Elles sont des aiguillons qui nous poussent à trouver des moyens d'agir, de nous défendre, de nous débrouiller. Elles sont la vie même. Et si je vous ai bien compris, à travers ces différents chapitres, vous nous expliquez qu'en fait, on a du mal à rencontrer la vie, à être dans la vie, à rencontrer le réel. Et chacune de chacun de vos chapitres, en fait, nous donne des petites astuces ou des leçons pour justement nous aider à rencontrer le réel. Alors, comment justement on peut faire pour aborder le réel, être dans la vie, et vous dites que notamment la méditation est une façon d'être dans le réel.
Oui, c'est ça le grand renversement du livre. C'est-à-dire le grand renversement, la grande, c'est que la seule manière de triompher des emmerdes, c'est d'entrer dans le réel. Ça a l'air tellement bête à dire qu'on se dit oui, alors, mais c'est tellement radical et tellement déconcertant. Parce que quand on a des emmerdes, notre réaction première, c'est de dire j'en veux pas. Je ne veux pas d'emmerdes. Mais le réel, il y a des emmerdes. Votre téléphone tombe en panne, votre four ne marche plus, vous devez venir ici, moi je vais venir ici, j'arrive, le taxi qui devait me chercher n'arrive pas, je ne sais pas où il faut le chercher. Donc, c'est ça on voudrait qu'il n'y ait pas d'emmerdes. En voulant qu'il n'y ait pas d'emmerdes, on voudrait vivre dans une sorte de bulle dans laquelle tout irait bien. Ce désir-là, il est mortifère. C'est une fois que je serai dans ma bulle, ben, je serai plus vivant. La vie, c'est entrer dans le mouvement du réel. Mais cette idée, voilà, j'essaie d'en montrer toute la profondeur. Alors après, on peut en parler à plein de niveaux différents. On peut en parler philosophiquement. Et philosophiquement, ça demande un travail insensé, puisque ça nous force à sortir de toute la constitution de l'individu, comme il est fait depuis 3 siècles, à partir de la subjectivité, comme étant le centre de l'individu. Mais je vais pas le faire philosophiquement, mais il y a tout le renversement qu'on essaye depuis que certains penseurs essayent depuis un siècle de faire pour quitter le mode de pensée habituel que nous avons, qui nous fait ne pas comprendre, qui nous conduit à avoir un rapport au réel en ayant peur ou en voulant le figer. Plutôt qu'en entrant dans le mouvement de la vie. Donc ça, c'est tout l'arrière-plan philosophique.
Mais qu'on retrouve dans le livre, oui, de manière comme ça, fragmentée à chaque fois. Voilà. Vous citez Spinoza, Nietzsche ou Kant. Et à la fin, d'ailleurs, il y a une très très bonne annexe de bibliographie où vous reprenez la morale selon les différents philosophes.
Ce que j'ai fait dans les 3 derniers livres, à la fin, je mets toujours, oui, une annexe où ceux qui veulent comprendre... voilà. Le livre est assez lisible à lire, mais après, si les gens veulent, dans l'annexe, j'explique tout l'arrière-plan de renversement philosophique, oui, et tout le travail qui m'a conduit à pouvoir affirmer des choses qui, à première vue, semblent un peu bizarres. Soyez narcissique, ça va pas à la tête. Faut surtout pas être narcissique. Tout le monde est trop égoïste, il faut être altruiste. Foutez-vous la paix. Mais non, il faut en faire encore plus, on n'en fait pas assez. Et là, entrer en rapport au réel et triompher des emmerdes. Mais non, on n'a pas envie. Donc, pourquoi faudrait triompher des emmerdes? Mais on ne veut pas avoir d'emmerdes, c'est point. Donc, j'essaie de montrer à quel point c'est cette croyance qui nous rend la vie, qui est en train de vraiment de nous ronger beaucoup plus qu'on ne le croit. Et un des autres axes, c'est que c'est en entrant dans le réel que je peux triompher des emmerdes plutôt qu'en étant enfermé en moi-même, mais aussi en entrant en rapport réel, je vais trouver des forces, des outils, des présents, des clés que je ne peux pas trouver en me regardant moi-même. Or ça, c'est vraiment une idée toute simple, mais très radicale. Quand un jeune, on lui demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», c'est absurde en réalité. Personne, un jeune, ne peut pas savoir, à part peut-être quelques rares exceptions, en se regardant lui-même ce qu'il veut faire plus tard. Et vous n'avez qu'à regarder votre propre vie. C'est « on a fait ce qu'on a fait par des rencontres, en essayant des expériences et en voyant que c'est pas ça qui nous plaît. Moi, j'ai jamais pensé que j'écrirais des livres. Et puis finalement, je me rends compte que c'est pas si mal. Donc, il y a un dialogue avec la vie qui est absolument central et qu'on oublie. Et on a tendance à être enfermé dans nos pensées et nos représentations qui entravent considérablement le rapport à l'existence. Et donc, à partir de là, il y a les renversements tout à fait pratiques que je peux donner. Mais ces renversements pratiques viennent sur ce grand renversement de fond.
Oui. Et parmi, justement, les renversements pratiques, il y a aussi des renversements auxquels on ne s'attend pas et qui sont même souvent un peu mis de côté. Oui. Il y a un chapitre qui s'appelle « Va chez le coiffeur ».
J'ai reçu un mail hier de quelqu'un qui me dit « J'ai fait une classe d'hypocagne, vous vous foutez du monde. Écrire un livre dans lequel aller chez le coiffeur permettrait de nous changer ». Mais vraiment, c'est honteux, c'est scandaleux. Et voilà, elle m'a dit ça. j'ai répondu que j'ai ramassé pour son mail et que je l'invitais à lire Ecce Homo de Nietzsche.
Oui, parce que c'est ça, en fait, ça part de « va chez le coiffeur » à Nietzsche.
En fait, c'est un très bon exemple, « va chez le coiffeur ». Donc, il y a un moment où je parle, il y a une page où j'explique que pour triompher des hommes, il faut aller chez le coiffeur. Parce que quand on va chez le coiffeur, bon, moi, pas vraiment moi, mais quand on va chez le coiffeur, après, parfois, on se sent bien. Ça donne de la, de l'allant, ça donne de la pêche. Comment ?
Il y a du bavardage
chez le coiffeur. Oui, mais surtout, on est coiffé, on sort, on sent plus beau, on sent mieux. Et, non ? On prend confiance, absolument. Or, nous avons tendance à considérer que c'est futile, parce que nous avons l'idée, la croyance, que ce qui compte, c'est l'esprit, et que le corps, c'est méprisable. Donc on crée une dichotomie, parce que tout le monde sait très bien que quand on prend une douche, on sent mieux, quand on était chez le coiffeur, on sent mieux, que la manière de s'habiller peut influer sur notre état d'esprit, que si je mange n'importe quoi, je ne me sens pas de la même manière que si je mange bien. Mais comme on a tendance à considérer que comme c'est un peu matériel, c'est futile, et comme le message, non mais c'est honteux de parler de ça. Mais en fait, c'est notre conception qui est complètement à côté de la plaque, parce que notre ultra-intellectualisme est une attaque à la vérité du réel. Et donc j'ai dit Ecce Homo, parce que Nietzsche était le philosophe qui écrit dans Ecce Homo, qui est un des livres les majeurs de l'histoire de la philosophie, les chapitres c'est... quelle l'influence du régime alimentaire sur la pensée. Il explique que peut-être que les Allemands, la philosophie allemande, est devenue un peu trop lourde parce que les Allemands mangent trop de pommes de terre et qu'il ferait mieux d'aller en Italie et que lui, il va vivre en Italie parce qu'en mangeant italien, il y a plus de légèreté et que la philosophie qu'il voudrait, c'est une philosophie dans laquelle on danse plutôt que cette philosophie métaphysique à Lacan qui est peut-être trop lourde. Et c'est pas juste une boutade. Il y a quelque chose de... Et après, il parle de l'influence du climat sur la pensée, de l'importance... Mais c'est des choses qu'on sait, qui semblent, qu'on n'a pas le droit de parler, qui semblent complètement dérisoires. Mais s'il pleut tout le temps, on est de moins bonne humeur que quand il y a du soleil. Pourquoi la philosophie ne pourrait pas inclure ça? Et donc, si on veut triompher des ennuis, peut-être qu'il faut faire un peu plus attention. Il faut peut-être faire plus attention à ces détails qui sont le réel. Et Nietzsche a absolument raison. Nietzsche montre qu'une part de la philosophie s'est égarée en oubliant le réel. Elle fait ses grandes pensées, mais elle oublie le régime alimentaire, le temps qu'il fait, comment on s'habille, comment on parle aux gens. Et dans mon livre, j'essaye de revaloriser cet ancrage dans le réel, et souvent par des petites choses qu'on peut transformer, des situations. Alors maintenant, c'est des choses qui ont été montrées scientifiquement, toutes les études sur le petit pas, les petits mouvements, le travail sur Nudge et tout ça. Donc aujourd'hui, on a un peu plus conscience que des petits changements qui ont l'air de rien peuvent entraîner, par exemple, si on veut que les enfants mangent moins de sucreries, il faut les placer à certains endroits à la cantine, ils auront moins tenté de les manger. On peut influer comme ça pour qu'ils mangent de manière plus saine. Donc voilà, c'est toute cette attention au détail, au réel, à la finesse, à l'écoute du réel, qui est une manière, le livre parle de plein d'autres choses, mais c'est une des manières et qui me semble participe d'une écoute de ce que nous invitait à faire Nietzsche il y a un siècle et qu'on voit qu'on a, les gens parlent de Nietzsche mais au fond on n'a toujours pas compris. C'est-à-dire il y a à la fois la mode est un diktat social, est un diktat disons on pourrait dire, il y a quelque chose de la mode qui est un diktat un peu social mais on n'entend pas. Du coup, on n'arrive plus à entendre toute cette modalité que chacun a trouvée. Je ne dis pas que tout le monde doit aller chez le coiffeur. Je dis juste, à partir de cet exemple, quelles sont pour vous des futilités qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et à vous donner cet allant qui va vous permettre d'avoir moins peur des obstacles que vous rencontrez dans votre vie.
Oui, oui. Et d'ailleurs, il en va de même lorsque vous parlez aussi de la ruse, tout simplement. En partant du roman de Renard,
c'est un point clé.
Aussi que voilà, c'est quelque chose dont on se méfie, qui a eu mauvaise presse, mais qui dans beaucoup de situations peut aider à se sentir mieux.
Ça c'est l'autre grand axe du livre, c'est-à-dire l'autre grand axe du livre, c'est pour nous la ruse c'est mal, c'est vraiment il faut être authentique. disons, en gros, la grande croyance, c'est être rusé, c'est horrible, il faut être authentique. Et tout mon livre, c'est ne soyez surtout pas authentique, soyez rusé. Alors,
Ça préfère un quatrième livre.
Non, mais c'est ça.
Oui, c'est ça.
J'explique. J'explique, parce que là, comme ça, vous dites, il est un peu fou. Être rusé, nous, c'est négatif, parce qu'on confond la ruse et la manipulation malveillante. Mais la ruse n'est pas malveillante. La ruse est une manière d'éviter l'affrontement. Quand on est dans une situation où la personne en face de vous est de toute manière en position de puissance par rapport à vous, de pouvoir et d'autorité, aller dans l'affrontement, c'est juste créer de la violence, créer de la guerre, créer plus de conflits, ou même être écrasé. Et donc dans cette situation, la seule solution, c'est l'habileté. La ruse, qui est l'habileté, qui est l'agilité, qui est la diplomatie. C'est Zorro. Et on comprend que Zorro, c'est pas un manipulateur, même si Zorro est rusé. Et donc Zorro, c'est le renard. Et donc il y a tout un fil. La figure du renard incarne en Occident, depuis les plus anciens textes grecs, où on a vu que le renard réussissait à vaincre en prenant appui sur la force de l'adversaire, jusqu'à Zorro, jusqu'à, au fond, d'un certain point de vue, jusqu'à Charlot, qui a aussi cette figure de ruse. Donc il y a toute une tradition de la ruse qu'on a, et malgré ça, qu'on n'arrive pas à entendre. Ce qui est très intéressant, donc il y a toute cette tradition, puis c'est intéressant que le renard, c'est le nom d'un personnage de livre. C'est pas le nom d'un animal. C'est le seul cas, si je me trompe pas, dans notre histoire, d'un animal, parce que ça s'appelait un goupil. Mais dans le roman de Renard, le goupil s'appelle Renard. Et Goupil a disparu et Renard a gagné. Ça en dit long sur l'importance de cette figure du renard. Or, nous avons une résistance par rapport à ça. En Orient, c'est évident. Si vous connaissez les arts martiaux, le judo, c'est être un renard. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le judo, le karaté, enfin tous les sports, c'est dans le combat, je ne détruis pas l'autre, mais j'essaye de prendre appui sur la force de l'autre pour le renverser. Donc c'est ça l'art du renard, parce que c'est comme ça qu'est expliqué le renard dans le monde grec. Le renard, c'est celui qui prend appui sur la force de l'autre pour le renverser. Et donc il y a déjà chez Pindare la description d'un combat, et c'est pas le plus fort qui a gagné, mais c'est celui qui était le plus malin. D'accord. Donc au fond, c'est aussi le plus malin, c'est le petit pousset, c'est tout ça le renard, c'est tout ça. Donc c'est ça que j'ai appelé ça traité de morale pour triompher de rien, parce que j'essaie de montrer qu'il y a une ruse qui est morale, parce qu'elle ne va pas pour détruire l'autre, pour faire du mal à l'autre. C'est complètement étrange. Les gens sont gênés de la ruse, mais en même temps, les livres qui parlent de manipulation pour baiser le voisin, il y en a plein, et les gens ne sont pas gênés. Donc là, il va y avoir de dichotomie. Moi, je suis très gêné dans l'idée qu'il faudrait manipuler les gens. Ça me gêne. Mais je pense qu'il y a une manière morale d'être rusé. Mes enfants ne veulent pas manger de légumes, je leur fais une omelette avec des légumes. Ils savent pas qu'ils mangent des légumes comme ça parce qu'ils veulent pas en manger. Est-ce que c'est mal? Ou est-ce que le fait que ma motivation est de les aider, ma motivation est de leur faire manger quelque chose qui est bon pour eux, ne fait pas que mon action est juste? Est-ce que si je suis en conflit avec un supérieur hiérarchique dans mon boulot et que j'essaye de ne pas rentrer dans une confrontation et que j'essaye d'être un peu habile, est-ce que ça veut dire que je suis manipulateur? Non. Donc ça, c'est pour le premier point. Maintenant, pourquoi il ne faut pas être authentique? Parce que je voudrais faire la différence entre authentique et sincère. Authentique, c'est croire que parce que je sens quelque chose, ça suffit à qu'il soit légitime de le dire. Mais on peut être authentique et faire du mal aux gens. Je raconte dans le livre un ami qui fait une exposition de peinture, c'est très important pour lui. Il invite une de ses cousines, il lui demande et il lui dit qu'est-ce que t'en alors comment tu trouves? Et elle fait aucun intérêt. Elle est peut-être authentique, mais c'est une telle brutalité. Il s'agissait pas de lui dire de mentir et de dire que son œuvre est géniale, mais elle pouvait dire je suis tellement content pour toi que tu aies fait cette exposition, même si c'est pas forcément les œuvres d'art que je préfère moi. Donc l'authenticité souvent. Nous la pensons indépendamment de la relation. C'est une erreur. Mon livre est un plaidoyer pour le réel et un plaidoyer pour la dimension relationnelle de l'être humain. Je crois important d'être relationnel, et donc de ce qu'on dit, on le dit à quelqu'un, on le dit à un moment donné. Il y a tout un chapitre sur quel est le bon moment, quel est le bon moment, à qui on le dit, quand on le dit, pourquoi on le dit, avec quelle intention on le dit, dans quel dessein on le dit. Et c'est ça que, et donc ça peut sembler être rusé, on pourrait dire aussi ça c'est l'intelligence relationnelle, et sacrifier l'intelligence relationnelle, c'est ce qui favorise à mon sens une profonde violence. Et je raconte dans le livre, pour moi, qui a été un peu un déclic, qui m'a conduit un peu à écrire le livre, je dois dire. J'avais un ami qui fait des stages de développement personnel. Je ne suis pas contre le développement personnel. Je suis contre une certaine caricature du développement personnel. Il y a des choses très bien, mais il y a une caricature. Et donc, il fait des stages de développement personnel. Il lit beaucoup de livres de développement personnel. Il part en week-end avec son épouse, ce qui arrive assez rarement parce qu'il travaille très dur. Il part en week-end et, arrivé dans la maison qu'ils ont louée, il lui dit « Écoute, il faut que je te parle. Là, j'ai travaillé sur moi. Il faut que je te dise, tu me fais peur. Tout le temps, tu me fais peur. » Elle a pris ses affaires et elle est rentrée chez elle. Et le week-end s'est arrêté là. Et je l'ai vu le lundi et il me dit, c'est quand même honteux qu'elle réagisse comme ça alors que j'étais tellement authentique et que je lui dis ce que j'avais sur le cœur. Et à son grand désarroi, je lui dis, oh, heureusement que ta femme a un peu de bon sens. Parce que c'est d'une telle violence de dire à quelqu'un avec qui tu vis depuis 8 ans, tu me fais peur comme ça. Si tu lui avais dit, en travaillant sur moi, je me rends compte que parfois je suis maladroit avec toi parce que, en plus de l'amour que j'ai pour toi, de l'admiration que j'ai pour toi, il m'arrive parfois de sentir de la peur. Là, c'est magnifique. Là, c'est sincère. Mais dit comme ça, c'est une telle manque de respect de l'autre. Et je ne vois pas la vertu qu'il y aurait à manquer de respect pour l'autre. Donc c'est ça que j'essaye de... Ce qui était l'art de la diplomatie, mais qui est aussi l'art de la politesse. Alors je sais que c'est complètement ringard. La politesse aujourd'hui, c'est complètement has-been. Mais j'essaye de revaloriser la politesse. Parce que la politesse, pour nous, c'est un truc petit bourgeois, ringard, inutile. J'essaye de montrer que la politesse, c'est le respect de l'autre. C'est ce qui évite les conflits. Et que dire bonjour, dire merci, faire attention à l'autre, c'est créer un espace d'amicalité, comme je l'appelle. Et que si on ne respecte pas les rapports deviennent extrêmement violents. Et donc, il s'agit peut-être que la politesse a été manipulée pour devenir un truc petit bourgeois, mais le sens profond de la politesse, c'est créer du lien, et tout ce qui crée du lien est absolument central. Et donc, tout mon livre, c'est comment apprendre à créer du lien. Pour triompher des emmerdes, il faut créer du lien. Et nous, on ne nous apprend pas à créer du lien, on nous apprend à rentrer dans notre bulle et à couper du réel. Et je trouve que c'est extrêmement dommageable. Donc, j'articule ça. Au fond, c'est quand même ça, le fil rouge du livre. C'est redonner aux gens cette puissance qui vient du fait de comprendre qu'est-ce que c'est, cette dimension relationnelle, la politesse, enfin... Voilà, il y a toute une manière de repenser cette articulation qui me semble mais tellement libératrice. C'est tellement libérateur. Parce que tout le monde a vécu cette expérience. Vous êtes dans une situation et vous ne comprenez pas la règle du jeu. Quand quelqu'un rentre dans une nouvelle entreprise, il y a un nouveau stagiaire qui rentre dans une entreprise, il est complètement perdu parce qu'il ne connaît pas la règle du jeu de l'entreprise. Une fois qu'on est la règle du jeu, on se débrouille bien. Mais on ne parle jamais de ça. C'est des trucs dont on ne parle pas. Et donc mon livre essaie de montrer, au fond... Et à quel point c'est passionnant. Au début, on a l'impression que c'est pas intéressant, mais c'est passionnant. Apprendre à être poli, c'est passionnant. Et donc, pour finir sur l'authenticité, la sincérité, moi, dans mon boulot, je dis bonjour aux gens. J'ai remarqué que dans certaines boîtes, les gens ne disent bonjour qu'à leur supérieur hiérarchique et jamais aux gens qui leur sont inférieurs hiérarchiquement. Mmh. Et je trouve ça extrêmement brutal. Je trouve ça extrêmement... Parce que quand on dit bonjour, on est obligé dans un rapport d'égalité avec l'autre. Si je dis bonjour... À l'instant où je dis bonjour, je reconnais l'autre. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas dire bonjour. C'est au fond d'eux-mêmes un mépris des gens. Mais quand je dis bonjour le matin, je vais faire une confession, il m'arrive de ne pas être authentique. Il m'arrive de dire bonjour et d'être de mauvaise humeur, et de ne pas avoir envie de dire bonjour. Et je le fais quand même. Et je pense que je suis sincère parce que je le fais vraiment pour de bonnes raisons. Parce que je pense que c'est important de s'ouvrir à l'autre et de respecter l'autre, même si je suis fatigué, que je suis un peu pressé, je me sens... Donc je le fais. Je ne suis pas toujours d'une authenticité totale. Je n'ai pas tout le temps envie de le faire. Mais je le fais sincèrement. Et donc j'essaie de faire cette distinction entre authentique et sincère et montrer qu'il faut Laissons tomber l'idée d'être authentique, soyons sincères. Peut-être que ma détermination du mot authentique sincère n'est pas très bonne, mettez les mots que vous voulez. Je ne suis pas sûr que j'ai trouvé les meilleurs, le meilleur terme. Mais voilà en tout cas ce que je voudrais, ce que je voulais essayer de montrer, qui me semble tellement libérateur.
Oui, puis ça fait écho à un livre bien connu aussi en développement personnel qui s'appelle « Essayez d'être gentil, soyez vrai », qui est aussi un livre. Voilà. Oui, donc ça, ce sont effectivement, il y a beaucoup de chapitres comme ça autour du jeu, parce que vous parlez aussi beaucoup de jeu. Il faut jouer. De la ruse, de la vertu du bonjour, mais il y a aussi quelque chose qui est aussi tout à fait présent, c'est un peu un esprit de chevalerie, un esprit d'héroïsme. Il y a évidemment tout un passage sur Lancelot. Il y a aussi des chapitres, voilà, qui sont un peu plus forts, un peu plus prégnants, notamment voilà, moi j'aime bien le chapitre Le loup est sous le lit, qui est un peu plus touchant aussi, puisqu'il s'agit là de vaincre ses peurs profondes. Donc c'est un peu l'anecdote que je racontais tout à l'heure par rapport à votre filleule qui avait peur d'un fantôme qui se cachait dans l'armoire. Et il y a aussi ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que voilà, il y a différents niveaux de lecture et il y a aussi différents tons, différents degrés de ton. Et voilà. Et je voudrais aussi que vous reveniez. Alors, vous pouvez revenir sur le chapitre que je viens de mentionner, mais je voudrais aussi que vous reveniez peut-être sur l'esprit de chevalerie, parce que vous aviez aussi écrit, je crois, un livre qui s'appelait La Voix du Chevalier, que vous aviez comparé à la méditation, ou plutôt inversement. Et est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui est toujours assez présent? Vous parlez aussi beaucoup du corps, et c'est bien normal en tant que méditant, de la posture, et dans vos séances de méditation, vous nous rappelez toujours de bien nous mettre droit, la tête droite, comme un guerrier.
La dimension chevaleresque, oui, c'est venu le jour où j'ai lu les romans de Chrétien de Troyes, qui a été un grand choc pour moi, parce que j'avais plein de préconceptions et j'ai trouvé ça mais incroyable. Lancelot, Perceval, Yvain, Erec et Enide. Et ce qui me marque, c'est quand on essaye de trouver une forme de spiritualité, parce que vous êtes au fond un libraire spécialisé dans la question spirituelle et religieuse, si on essaie de trouver une figure spirituelle qui ne soit pas anti-religieuse, mais qui ne soit pas religieuse, qui peut se lier aux religions ou ne pas se lier aux religions, je trouve que la dimension chevaleresque est très aidante. Chez Chrétien de Troyes, il n'y a absolument quasiment aucune allusion à la religion, de quelque ordre que ce soit. Les mariages d'Erec et Enide sont faits sans prêtre. C'est des mariages complètement civils. Il y a, je crois, juste dans le dernier livre, dans Perceval, il croise un moment un moine. Je crois que c'est la seule allusion de tous les livres de Chrétien de Troyes. J'étais très étonné, parce que moi, j'avais l'idée que le Moyen-Âge est ultra-religieux, et là, c'est uniquement la décence, l'amour. Et donc, c'est une spiritualité que je trouve intéressante pour nous, parce que... en tout cas pour moi, qui essaye de penser une spiritualité qui soit une imitation qui soit laïque, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant. Et quand chaque fois que je lis les textes et les mythes autour de... Donc il y a les textes de Chrétien de Troyes, puis après il y a toute la mythologie celte. C'est surtout la mythologie celte que je trouve vraiment extrêmement passionnante. Il y a aussi autre chose de très étonnant pour nous, c'est que c'est fondé, Chrétien de Troyes a été en partie, il a écrit ses livres, sous l'impulsion de Marie de Champagne, donc de femmes. C'est des femmes qui ont en grande partie essayé de penser ce rôle de la chevalerie. Essayant de travailler, en fond, mon travail, j'essaie de travailler un peu dans un espace qui est un peu déserté par la pensée, c'est-à-dire donc la poésie, cette pensée qui est hors de cette pensée disons, un peu dominante, ultra dogmatique. C'est pas bien dit, ultra dogmatique. La pensée de notre temps est une pensée ultra instrumentale, c'est mieux dit. Donc cette pensée non instrumentale, donc en essayant de penser ça, j'essaye aussi de reconsidérer, peut-être vous avez remarqué dans mes livres et dans mon travail d'éditeur, la parole des femmes. Je trouve ça tout à fait frappant de voir que il y a même encore aujourd'hui un déni de la parole des femmes. Or, la question chevaleresque, on n'imagine pas tout, parce qu'on pense que c'est que des chevaliers. Mais en fait, c'est Erec Enide, c'est quand même le thème d'Erec Enide, qui est quand même le thème central, qui est le point de départ de l'œuvre de Chrétien III. C'est comment c'est l'homme et la femme ensemble qui partent à l'aventure. Et comment le couple peut ne pas empêcher l'homme de partir à l'aventure et n'être pas dans quelque chose qui l'enferme. C'est toute la question. C'est une question, bon, c'est pas tout notre sujet, mais c'est des questions absolument, absolument centrales. Donc c'est tout ça qui nourrit ma réflexion. Et autre point de la dimension chevaleresque dans la dimension spirituelle, c'est que c'est qu'une spiritualité qui est fondée sur l'amour. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de spiritualités qui sont fondées sur le détachement. Ça, c'est un autre axe de mon travail. C'est de dénoncer l'idée de détachement, de lâcher prise, d'être zen, d'être calme, d'être détendu.
Le moment présent aussi, ça s'intéresse.
Le moment présent, tout ça, voilà. Donc toute cette sauce-là, le moment présent, soyez zen, soyez calme, soyez détendu, soyez dans le moment présent. Après, il y a l'autre phrase aussi, c'est profiter des moments, profiter le bonheur de l'instant présent. Tout ça, Et donc, la chevalerie porte sur complètement autre chose, ce qui est sur l'amour. C'est-à-dire, comment Lancelot réussit à marcher sur le pont de l'épée, pas du tout en lâchant prise, pas du tout en entrant dans le moment présent, mais c'est par amour de Guenièvre qu'il ose aller sur le pont de l'épée, là où les autres ont un peu peur. Et je trouve, moi, que dans la vie, une spiritualité fondée sur l'amour, et donc sur l'aventure, sur le risque, sur l'ouverture, sur la rencontre, me semble préférable. Et je souffre beaucoup qu'aujourd'hui, la sagesse et la spiritualité sont liées au calme, au lâcher-prise, au non-ego, à la détente, au détachement, et pas à l'aventure, à l'amour, au risque, à la rencontre. Et c'est ça, à l'allant, et c'est ça...
C'est un mot qui revient souvent.
Oui, et donc je plaide dans tous mes livres sur ça. Parce que le fond de ma pensée, c'est que cette idée de calme, de détente, de soyez zen, de détachement... non seulement n'aide absolument personne, mais en plus culpabilise tout le monde, parce que tout le monde se sent coupable de ne pas réussir à être calme, zen, détendu. Et quand ils ont une difficulté, quand on se sent en colère, on se sent coupable. Quand on est triste, on se sent coupable. Quand on est un peu déprimé, on se sent coupable. Quand on est blessé, on se sent coupable. Donc on se sent coupable tout le temps, parce qu'on est tous... Il y a peut-être des exceptions ici dans la salle, vous me le direz à la fin... Mais tout le monde, à un moment, on est triste, on est blessé, on en a marre, on est irrité, on est en colère. Et au lieu de considérer que ça fait partie de l'humanité et qu'être humain, c'est entrer en rapport à ça, célébrer notre humanité, transformer ce qui nous ronge pour aller de l'avant, on nous invite à une forme de perfection, de détachement qui nous enferme dans un petit cocon dans lequel on est complètement enfermé. Et je trouve ça complètement mortifère. Je trouve que toute l'idée de la sagesse, toute l'idée de spiritualité qui est aujourd'hui le plus souvent présentée, va à l'encontre du sens profond. Et je trouve que la chevalerie témoigne de ça. On comprend bien que le chevalier... en plus, c'est marrant, parce que dans toutes sortes de chevaliers, ils font plein d'erreurs. C'est pas du tout des j'aime bien le chevalier parce que j'aime pas trop les super-héros. Parce que c'est pas des super-héros qui sont surhumains. C'est des êtres humains... Perceval, il est complètement naïf et un peu bête parfois, et c'est le plus grand chevalier. C'est ça, c'est comme c'est vraiment le modèle du petit Poucet. Le petit Poucet reprend une figure, c'est pas une sorte de chevalier, mais c'est très proche de l'idée du chevalier parce que les chevaliers, c'est souvent les gens les plus normaux, comme vous et moi. C'est pas c'est ça, le petit Poucet qui a l'air d'être le tout petit, le dernier, le bêta, et c'est lui qui va sauver toute sa famille. Et au fond, je crois plus en une sagesse dans laquelle on apprend aux petits poussets que c'est pas si grave d'être des petits poussets, plutôt qu'une sagesse qui montre que on est des merdes, mais un jour on arrivera à la sagesse. Et en général, quand on commence à parler comme ça, on finit aussi par dire « faites comme moi », et on finit par manipuler les gens pour qu'ils vous suivent, pour aller dans la sagesse que vous, vous avez vue par rapport aux autres, dans une sorte de hiérarchie. Donc je trouve ça pas du tout sain.
Mmh. Moi, j'aurais juste envie de rebondir une seconde sur ce que vous venez de dire, parce que je trouve ça intéressant, justement, sur le moment présent, sur le calme. Et pour ceux qui ne seraient pas au fait, en tant que, justement, enseignant de méditation... vous en avez souvent parlé, mais est-ce que justement vous pourriez peut-être, parce qu'on fait l'association entre méditer, peut-être, hein, et trouver la sérénité, trouver le calme, on entend souvent faire le vide dans sa tête, etc. Je sais que ce sont des choses qui vous...
c'est insensé, voilà. Mais je comprends, alors, je sais même pas si je peux continuer, si je vais pouvoir, je dois faire une émission bientôt, je voulais appeler méditation, et on m'a dit non, on peut pas, parce que méditer, ça veut dire se calmer. Mais j'ai dit mais non. Ils me disent mais on peut pas, parce que personne va plus comprendre ce que tu dis, on peut pas tromper les gens comme ça. Et c'est terrible. Moi, je me sens... Méditer n'a jamais, jamais, dans toute l'histoire de, disons, de la tradition orientale, mais des équivalents qu'on peut trouver dans la tradition chrétienne avec l'oraison, ou dans d'autres traditions, jamais ça a voulu dire se calmer. C'est une invention complètement folle. Ben, je veux dire, prenez tout simple. Vous êtes anxieux, vous avez de l'anxiété. Si vous dites « il faut que je me calme », est-ce que vous avez la moindre chance de vous calmer? Non. La seule manière de vous calmer si vous êtes anxieux, c'est d'entrer en rapport à votre angoisse. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire de vous calmer. C'est en entrant en rapport à votre anxiété, en écoutant votre anxiété, en prenant le temps de l'écouter, que vous allez peut-être la transformer. Alors là, vous n'allez pas vous calmer, vous allez vous apaiser. Je fais tout le temps la distinction entre calme et paix. La paix implique... le mouvement, l'allant, la vie, l'amour. On peut être apaisé, mais prendre un risque, ne pas être calme. On peut être en paix sans être calme. Et cette idée de calme est une idée...
Ça vous angoisse.
Non, c'est pas que ça m'angoisse. Je vois les ravages que ça a sur les gens. C'est-à-dire que l'idée de calme est inséparable de l'idée de performance et qu'on pousse les gens à bout. On les fait souffrir. On les pousse jusqu'à la mort. Et en même temps, on veut les calmer. C'est le même discours, c'est-à-dire, gérez-vous encore mieux, on met les gens jusqu'au burn-out, et après on les accuse de ne pas avoir médité pour se calmer, être encore plus performant. C'est exactement ça. C'est ça la barbarie que j'essaye de montrer. Donc ce n'est pas du tout une question personnelle, c'est juste que je trouve qu'il y a là quelque chose qui est un manque de bon sens. Et alors, c'est un peu une truc de fou, puisque c'est moi qui suis philosophe qui finit par... je suis invité par de très nombreux psychiatres pour qu'on parle de ça, parce que n'importe qui est psychiatre ou thérapeute, j'ai pas mal travaillé avec des psychiatres, mais des thérapeutes, voit très bien qu'on n'a jamais aidé quelqu'un en lui disant de se calmer. On aide quelqu'un en l'écoutant, en entrant en relation, en lui permettant, avec une sorte de bienveillance, d'entrer en rapport à sa douleur. Et donc, tout... La méditation, ce n'est pas se calmer. Méditer, c'est entrer avec attention, bienveillance, générosité, avec ce qui est blessé en nous pour le transformer, avec ce qui est douloureux en nous pour le transformer. Et ça a du sens. Et donc, un jour, mon filleul était angoissé. Il sortait de classe. Donc, je le vois. Je ne lui ai pas dit « Ah, tu es angoissé, mets-toi en zazen, on va pratiquer la méditation pour te calmer. » Ça aurait été monstrueux. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait un câlin, je lui ai essayé de lui demander qu'est-ce qui lui arrivait. Et quand il était suffisamment en confiance, donc dans une relation, qu'il avait suffisamment un sens de chaleur, il a pu oser me dire que la maîtresse avait changé et qu'il avait peur de la maîtresse et qu'il était honteux d'avoir peur de la maîtresse. Et une fois qu'il m'a dit ça, ça allait déjà mieux. Et le lendemain matin, son père m'appelle et me dit « Mais comment tu as fait ?» Adrien allait beaucoup mieux. Est-ce que tu l'as fait méditer? En réalité, oui, parce que méditer, c'est ça, c'est faire un câlin à quelqu'un ou à soi pour qu'on puisse rencontrer ce qui nous pose problème pour le transformer. Mais imaginez, si j'avais voulu le calmer, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les écoles, dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, les gens me racontent que dans les écoles, il y a plusieurs parents qui m'ont raconté que leur enfant, qui est trop turbulent, est privé de récréation pour avoir un cours de pleine conscience. Donc c'est privé de récréation pour un cours de pleine conscience, pour les calmer. Je trouve pas que c'est un progrès. Je trouve ça très inquiétant. Ça m'inquiète au plus profond. je n'ai pas consacré ma vie à transmettre la méditation pour que ce soit une nouvelle manière de mettre les gens dans la norme et de les priver de leur humanité. Je crois que si la méditation a un rôle à jouer pour nous et pour le monde, c'est de préserver notre humanité. Et préserver notre humanité, c'est un acte gratuit. C'est-à-dire à l'instant où je considère quelqu'un en l'instrumentalisant pour en tirer quelque chose, je ne le respecte plus comme un être humain. Et c'est ça, c'est là où ça devient violent. Et donc je suis très opposé. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de pas du tout calme, je suis quelqu'un de tout à fait révolté. C'est la fin de mon dernier, mon livre finit sur la révolte. Je suis quelqu'un de profondément révolté de cette attaque à notre humanité. Alors elle est lieu, elle a lieu là, mais elle a lieu partout. Je trouve qu'aujourd'hui, le vrai défi, c'est est-ce qu'on peut préserver partout l'humanité de l'être humain. C'est ça, au fond, mon livre. C'est comment préserver l'humanité de l'être humain. Quand on réduit l'être humain simplement à sa fonction qu'on veut et dont on veut tirer le maximum de rendement en niant la relation, cette attaque-là est juste... on ne peut pas vivre dans ce monde-là. C'est ça que j'essaye d'expliquer dans ce livre. On ne peut pas vivre dans un monde où c'est pas juste où il n'y a plus que le profit. C'est beaucoup plus radical que ça. C'est un monde dans lequel l'être humain n'est qu'une donnée comptable dans un tableau Excel. C'est ça qui me pose problème. Et c'est là-dessus que j'essaye d'écrire. Et voilà, c'est ça l'articulation.